Tes petits camarades seront là, alors si tu sais pas le texte, t'auras l'air de quoi? Allez, c'est pas grave, allons-y.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio, la web radio du HAF.
Qui n'a jamais eu un monstre sous son lit quand il était enfant, me jette la première pierre. Qui n'a pas eu un ami imaginaire dans ses jeux à la cour de récré, me jette là encore l'opprobre. Et puis par contre, quand on est adulte, on continue parfois à avoir ces petits fantasmes qui mettent un petit peu de peps dans notre vie, à l'insu de notre plein gré. Allez donc savoir. Alors il y en a pour certains, c'est la religion, d'autres, eh bien c'est là encore un ami imaginaire. Bref, on a tous parfois des petites bévues comme ça, sans forcément aller jusqu'à la schizophrénie. Eh bien on a tous des petites entrejambes comme ça, des petits entrechats du côté de problèmes de conscience modifiés, si j'ose dire. Et c'est un petit peu le thème du spectacle dont on va parler aujourd'hui, une nouvelle fort célèbre de Guy de Maupassant qui a été adaptée par Frédéric Mounier. Bonjour.
Bonjour.
Vous interprétez ce fameux personnage de Guy de Maupassant, ce fou de la littérature qui était un peu une nouveauté d'ailleurs à la fin du 19e siècle. Le Horlas est joué tous les jours au théâtre de l'Albatros à 15h15 jusqu'au 31 juillet. Alors Frédéric Mounier, vous-même, vous incarnez le personnage, le narrateur en fait de cette nouvelle que vous avez adaptée sur scène au sein de la compagnie Cedo Productions, c'est bien ça?
C'est ça, tout à fait, oui.
Et vous-même, vous venez de Montpellier avec le Théâtre Solaire, qui est votre structure. Et ce n'est pas votre premier passage au Festival d'Avignon. Vous étiez déjà là en 2008, il me semble.
En 2008, avec une pièce qui était une création, Mathieu Solaire. À la tache d'encre, sur cette même rue des teinturiers.
D'accord, donc quand on fixe trop le soleil, on a une tache d'encre sur la rétine, et donc ça donnait le nom du Théâtre Solaire, je suppose.
Oui, tout à fait.
Peu ou prou,
tout à fait.
Ouais. Voilà, donc il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, oui, vous vous raclez un petit peu la gorge, oui. Mais on ne saurait vous en vouloir parce qu'il y a encore des pollens estivaux, pour le coup, dans l'air que charrie le Mistral sans pitié de notre
sans
bien
pitié,
belle
oui.
Région avignonnaise, hein, il vaut bien la Tramontane, vous me direz, qui souffle à Montpellier. Et du coup, c'est avec courage que vous êtes venu jusqu'au studio d'Osmose Radio nous parler de ce spectacle qui est inspiré d'une célèbre nouvelle de Maupassant sortie en 1887, une nouvelle qui s'appelait « Le Horlas » et qui a déjà connu de nombreuses adaptations. Mais vous-même, comment vous avez appréhendé ce texte?
Eh bien, le but, lorsque nous avons décidé de monter ce texte, c'était de porter au même niveau la beauté de l'écriture de Maupassant et le spectacle. Voilà. Nous avons là la beauté de cette écriture au service de cette histoire qui fait frissonner devant un suspense fantastique. Et ceux qui viennent écouter du Maupassant auront le texte original, et ceux qui seront plus intéressés par le frisson, par l'histoire, par le suspense, auront visuellement un univers élégant qui va les emmener dans ce gouffre.
C'est vrai, rappelons que la nouvelle de Maupassant a la forme d'un journal intime. Là encore, c'était quelque chose d'assez nouveau pour l'époque, une méthode de narration dans le roman qu'avait d'ailleurs utilisé aussi Bram Stoker dans son fameux Dracula, à peu près à la même époque. Dracula était sorti en 1897 et donc 1887, on avait le Horlas, une autre nouvelle fantastique qui a plusieurs niveaux de lecture, vous venez de le suggérer, à savoir qu'on peut s'intéresser au parcours du personnage, à sa folie douce qui peut devenir folie furieuse, ou bien à l'aspect un petit peu fantastique que suggèrent certains détails du roman. Et donc, on peut avoir différents niveaux de lecture qu'on peut retrouver dans le spectacle. Alors, pour donner un ordre d'idée de l'aspect visuel, ceux qui nous suivent sur Facebook peuvent voir à l'écran votre face de carême, pardonnez-moi cette expression, avec votre maquillage assez impressionnant, qui rappelle un petit peu un homme sur le déclin, un semi-cadavre en quelque sorte, un petit peu comme est le personnage lui-même à la fin du roman.
Voilà. Oui, tout à fait.
Mais il y a bien d'autres choses encore, c'est le metteur en scène, donc Léon Belligan, a pris le parti d'utiliser une esthétique bien particulière qui correspond là encore à l'idée qu'on se fait du 19e siècle, c'est ce qu'on appelle le steampunk.
Le steampunk est un courant littéraire, un 19e siècle un petit peu fantasmé, dirait-on, où on n'a pas découvert l'électricité, on n'a pas poussé l'énergie de la vapeur, pétrole, mais on a poussé la vapeur. Le steampunk, c'est des rouages, de la fumée, beaucoup d'œuvres sont steampunk. On a souvent porté à l'écran des Jules Verne de façon steampunk.
Jules Verne, c'est vraiment la référence. Mm-hmm. Et un petit peu H.G. Wells aussi pour la littérature victorienne.
C'est ça.
Et donc voilà, ça rappelle un petit peu cette esthétique du 19e siècle avec ces grosses machines à vapeur qu'il y avait à l'époque, les bateaux à roues à aubes et j'en passe.
Les machines, les voyages, ça c'était le fantastique de Jules Verne. Le fantastique de Maupassant aborde plus le paranormal, voire la psychiatrie, puisqu'on assiste là à la montée dans la folie d'un homme pour qui, au départ, pourtant, tout allait bien.
Et vous l'avez dit vous-même, le paranormal et la psychiatrie, qui étaient deux nouveautés, en tout cas deux sujets qu'on redécouvrait à la fin du 19e siècle, puisque bah, le paranormal, il y avait les tables, Victor Hugo lui-même avait bien aimé faire du spiritisme, il y avait Madame Blavatsky, une espèce de, c'était une escroc, disons-le tout net, qui embobinait un petit peu toute la haute société de Paris ou de Londres à l'époque.
C'est une époque où on découvrait l'hypnose. Les samedis soirs, dans les salons mondains, on faisait de l'hypnose. Donc, on est un petit peu dans un courant de mode. Et il faut quand même souligner que Maupassant souffrait à cette époque-là, à l'époque de l'écriture, d'hallucinations qui allaient l'emporter quelques années plus tard, pas si longtemps après d'ailleurs, 4-5 ans.
La hallucination qui lui venait donc d'un état de dégénérescence dû à la syphilis qu'il avait contracté quelques années plus tôt. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, vous le suggérez, c'est des aspects de son œuvre qui évoluent, puisque dans une première partie de sa vie, il s'est intéressé à la littérature réaliste, avec Bel Ami, avec Boule de Suif, etc., et en soulignant souvent les choses de la chair, et puis en allant vers la fin de sa vie, puisqu'il est mort quelques années après le Horla, je crois.
Oui, 4-5 ans, oui.
Ouais, et justement, il s'est intéressé plus à des aspects un petit peu paranormaux, un petit peu mystérieux, qui est souvent aussi plus morbide, notamment dans le Horla, et... ce qu'on disait tout à l'heure, donc il y avait cet aspect un petit peu nouveau du paranormal à la fin du 19e siècle, et aussi le côté psychiatrie, puisque c'était l'époque du professeur Charcot qui commençait à faire des expériences. Vous avez parlé de l'hypnose, mais ça participait de tout ça, ouais.
Oui, tout à fait. Mesmer, à l'époque, déjà il y avait un Mesmer qui justement pratiquait ce genre d'hypnose spectacle, peut-être.
Alors voilà, donc le maquillage, l'environnement steampunk qui rappellera tantôt Jules Verne, tantôt pour moi, à titre personnel, c'est grâce à Jacques Tardy, les adaptations de Jacques Tardy, que j'ai découvert le steampunk en bande dessinée. Et donc toute cette esthétique participe à un imaginaire que vous vous réappropriez pour mettre en scène cette nouvelle, le Horla, cette nouvelle qui était déjà très très bien connue puisqu'il y a eu déjà de nombreuses adaptations et c'est un classique qu'on fait souvent à l'école. Alors c'est un texte assez court, mais vous avez tenu avec le metteur en scène à rester très près du texte. J'imagine que ça n'a quand même pas été facile dans la mesure où c'est structuré comme un journal intime.
C'est structuré comme un journal intime, tout à fait. C'est difficile à acquérir. Puisque les jours se suivent et se ressemblent pas forcément, il y a toute une chronologie. Donc pour le comédien, ce sont plein d'écueils à éviter, de petits pièges dans le texte, mais c'est passionnant, passionnant. Et surtout, ce qui est passionnant ici dans ce texte, c'est de jouer cette grimpée progressive dans la folie, de saisir les gens avec une très belle quiétude au départ du spectacle et de les emmener petit à petit vers un final délirant.
Et j'imagine que c'est d'autant plus un défi pour vous que vous ne pouvez pas faire des retouches de maquillage pendant le spectacle. Donc vous commencez d'entrée de jeu le spectacle, la pièce avec ce maquillage un petit peu macabre, un petit peu impressionnant pour les spectateurs du premier rang, j'en suis sûr, et pour ceux du fond sans doute aussi. Et avec ce visage un petit peu cadavérique, des aspects un petit peu cadavériques, vous interprétez tout d'abord un personnage sain d'esprit et sain de corps. Et peu à peu, vous devez en rajouter pour bien signifier sa dégénérescence avec le même visage. Voilà. Donc là, j'imagine qu'en tant que comédien, c'est un défi.
C'est un défi, mais détrompez-vous, il y a des petites astuces invisibles pour le maquillage qui évoluent lui aussi en même temps que le spectacle.
Ah, voilà. Donc là, c'est des petits secrets de fabrication sur lesquels on aimerait vous asticoter, mais on ne peut pas vous demander de dévoiler vos petits secrets.
Non.
Hélas. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous représentez donc ça à 15h15, voilà, tous les jours, donc en sortant
sauf
du studio.
Sauf le mardi. Relâche.
Donc, sauf le mardi. Relâche ce mardi et la semaine prochaine à 15h15 jusqu'au 31 juillet au théâtre de l'Albatros. C'est dans la rue des Teinturiers. Comment ça se passe pour le moment ?
Comment ça se passe, pardon ?
Comment ça se passe pour le moment ? Est-ce que le public est intéressé ? Il est au rendez-vous ?
Écoutez, je suis très heureux de vous dire que depuis 7 jours, c'est complet.
Ah.
Donc, je suis. Vous avez devant vous quelqu'un de très heureux. C'est un rêve. Vraiment, c'est un rêve. que je n'avais pas osé imaginer. Voilà. Donc,
et bon, on vous souhaite que la fin du festival soit à l'avenant, malgré les petits problèmes. Donc, à partir de mercredi, il y a le pass sanitaire. Je ne sais pas si le théâtre de l'Albatros est concerné. La salle fait plus ou moins de 50 personnes ?
La salle fait 49 places. Donc, en théorie,
coup de bol.
Pas concerné par le pass sanitaire. Oui.
Bon, voilà. Donc, ce sera plus simple pour les éventuels auditeurs. Oui. Voilà, qui voudrait s'y rendre. Pas que ce soit une difficulté insurmontable, mais c'est tout de même un petit peu ennuyeux, il faut le reconnaître. Quoi qu'il en soit, un autre aspect qui, moi, mais ça, c'est totalement à titre personnel, dans le hors-là, en fait, vous savez, les œuvres, elles, sont intemporelles, elles sont écrites peu ou prou pour l'éternité, et on n'a pas changé une ligne du texte de Maupassant depuis 1887. Néanmoins, le contexte, lui, évolue, le contexte social, le contexte historique. Et du coup, pour ma part, je n'ai pas pu m'empêcher de penser avec ce personnage du Orla. Donc, le Orla, c'est la créature fantastique que croit voir le narrateur, mais lui-même, en devenant un petit peu fou, en voyant le mal partout et en finissant par signifier sa perte, en quelque sorte, je n'ai pas pu m'empêcher de faire les rapprochements avec les complotistes d'aujourd'hui, ceux qu'on désigne comme tels, du moins, qui parfois ont des soupçons légitimes, mais qui aussi souvent vont parfois vraiment loin dans leurs interprétations. Et à tort ou à raison, je me suis dit que le Orla faisait écho à cette tendance de nos sociétés contemporaines qui s'épanouit notamment sur Internet et sur les réseaux. Et vous m'avez dit, vous m'avez rappelé d'ailleurs, puisque moi le texte je l'ai lu il y a une trentaine d'années, vous m'avez rappelé qu'en fait, à toute proportion gardée, Maupassant comparait un petit peu la plèbe, je m'excuse du vilain mot, faisait des comparaisons pas très flatteuses.
Oui, alors... Vous faites peut-être allusion à une tirade sur le peuple qui, selon lui, est un troupeau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté. On lui dit « Amuse-toi, il s'amuse ». On lui dit « Va te battre avec le voisin ». Il va se battre. On lui dit « Vote pour l'empereur ». Il vote pour l'empereur. Puis lui « Vote pour la République ». Et il vote pour la République. Et il ajoute « Ceux qui le dirigent sont aussi sots ». Mais au lieu d'obéir à des hommes, ils obéissent à des principes. Lesquels ne peuvent être que niais, stériles et faux, par cela même qu'ils sont des principes, à savoir des idées certaines, réputées et immuables, dans ce monde où l'on n'est sûr de rien, puisque le bruit est une illusion, puisque la lumière est une illusion.
Toute magnifique. Toute comparaison, toute ressemblance avec des gouvernements existants est purement fortuite.
Absolument.
Voilà. On n'en dira pas plus. En tout cas, merci Frédéric Mounier d'être venu nous parler de ce spectacle.
Merci de m'avoir reçu.
Je vous en prie. Le Orla, donc pour ma part, c'est vraiment un texte qui m'avait beaucoup touché quand j'étais ado, à un âge où on s'intéresse beaucoup à la littérature fantastique et qui nous reste en mémoire. Pour le reste de nos jours, à 15h15 jusqu'au 31 juillet, au théâtre de l'Albatros. Et d'ailleurs, Osmose Radio vous fait gagner des places, chers amis, si le cœur vous en dit. Vous pouvez nous appeler au 06 52 82 01 31. 06 52 82 01 31. Et on vous dira comment gagner 4 places pour le spectacle Le Orla. Alors, j'espère pour vous que ce ne sera pas complet le jour où vous souhaiterez y aller. Mais s'il reste des places, eh bien, vous pourrez en profiter d'entrée gratuite grâce à vous, Frédéric Mounier. Oui. Voilà, et vous pouvez nous appeler à Osmose Radio. Voilà, chers amis, merci Frédéric Mounier. Longue vie au Orla. Je ne sais pas si cette chose est vivante, vous me direz.
Ah ah.
Dans nos esprits.
Maupassant, dans mon esprit, non. Dans mon esprit, c'est un partenaire de scène. Mais lorsque le rideau tombe, c'est terminé, totalement. Je n'ai pas de problème avec le Orla.
Je ne souhaitais pas vous psychanalyser, rassurez-vous. Allez, longue vie au Orla ou pas, et puis à bientôt sur Osmose Radio.
Merci.